Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, une avancée pour les droits des femmes et elle vient d'Espagne, un pays à la pointe en Europe sur ces questions. Madrid vient d'approuver un avant-projet de loi qui renforcera le droit à l'avortement dans le pays. Le texte doit encore passer par le Parlement pour être mis en place. Il s'agit de la troisième réforme de l'avortement en Espagne depuis sa légalisation en 1985, Élise Gazangel.
Officiellement, la loi permettait déjà aux Espagnols d'avorter dans n'importe quel centre de santé publique. Mais en pratique, les médecins invoquant l'objection de conscience pour refuser de pratiquer une IVG sont si nombreux que dans certaines régions, les femmes doivent parcourir des centaines de kilomètres pour avorter. Le gouvernement va donc réguler ces objecteurs de conscience. Ils devront s'inscrire dans un registre semblable à celui mis en place pour l'euthanasie, qui permettra aux autorités de contrôler que l'IVG est bien garantie partout sur le territoire. Autre changement prévu par le projet de loi, le délai de 3 jours de réflexion obligatoire avec distribution de livrets d'informations qualifiés de tutelle patriarcale par l'exécutif est supprimé et les jeunes femmes de 16 et 17 ans pourront désormais avorter sans le consentement de leurs parents. Enfin, la pilule du lendemain vendue aujourd'hui 20 euros en pharmacie sera donnée gratuitement dans les centres de santé et un arrêt maladie pourra être donné après un avortement difficile. L'Espagne, souvent citée en exemple européen dans la lutte des droits des femmes, semble encore une fois vouloir prendre de l'avance.
En Pologne, les associations se mobilisent pour aider les réfugiées ukrainiennes à accéder à l'avortement dans un pays où la loi est l'une des plus restrictives d'Europe. Seule solution donc pour ces réfugiées dont certaines sont tombées enceintes après avoir été violées en Ukraine, se tourner vers les ONG qui ont reçu de nombreux appels à l'aide, Sarah Bakaloglou.
Depuis le début du mois de mars, ce sont près de 400 Ukrainiennes qui ont contacté le collectif Avortement sans frontières. Justina Vedzinska fait partie de l'association Abortion Dream Team, membre de ce collectif. Tous les jours, elle répond par téléphone aux Ukrainiennes les contactant.
C'est vraiment au tout début de la guerre, vers fin février, début mars, que nous avons remarqué une augmentation des appels de la part des Ukrainiennes. La plupart d'entre elles étaient enceintes depuis plusieurs semaines et ont décidé de mettre fin à leur grossesse car elles avaient peur de leur situation et du fait que le futur était incertain. Et après quelques semaines, on a commencé à entendre des histoires de viol, mais nous ne demandons jamais au téléphone les raisons qui poussent les femmes à avorter.
Des femmes ayant trouvé refuge en Pologne et qui se retrouvent confrontées à la très sévère législation sur l'accès à l'avortement. Un calvaire supplémentaire pour ces Ukrainiennes, notamment pour celles ayant subi un viol, explique Antonina Lewandowska de la Fondation pour les femmes et le planning familial.
Honnêtement, je ne peux pas imaginer ce que vivent ces femmes qui ont fui la guerre, qui ont subi un viol, ont perdu peut-être des proches, leurs biens, et qui arrivent dans un autre pays dont elles ne parlent pas forcément la langue. Ici, c'est extrêmement difficile. C'est un pays où l'avortement, en cas de viol, est possible sur le papier, mais en réalité, impossible à obtenir. Une de mes collègues en Ukraine m'a confié qu'un groupe de femmes violées à Kiev n'avait pas voulu venir en Pologne. Elles ont très peur de ne pas pouvoir avorter ici et de devoir continuer la grossesse jusqu'à son terme.
Car en Pologne, l'avortement reste théoriquement légal dans 2 cas, en cas de danger pour la vie et la santé de la femme et après un viol ou un inceste. Mais en réalité, avorter après un viol est presque impossible, Justina Wedzinska de l'association Abortion Dream Team.
La loi polonaise est très mauvaise, surtout quand il s'agit de viol. Car si vous voulez avorter pour cette raison, vous devez démontrer à un procureur que cela est bien arrivé. Donc aller au commissariat pour le signaler, ce qui signifie prélèvement de preuves et plusieurs interrogatoires sur ce qu'il s'est passé. Donc même les Polonaises ne le font pas, car ce processus est vraiment horrible. Vous devez prouver que vous avez été violée. Surtout que dans le cas des réfugiées ukrainiennes, c'est bien plus difficile, car le viol s'est passé en Ukraine. C'est impossible à établir.
Surtout que l'avortement n'est possible en cas de viol que jusqu'à la 12e semaine. Devant l'arrivée des réfugiées ukrainiennes violées, des députés de l'opposition de gauche ont déposé un amendement pour faciliter la prise en charge de ces femmes dans le pays. Anita Kuratska-Dziecik est membre du Parlement.
En Pologne, dans un pays de 38 millions d'habitants, il y a un ou deux cas seulement où l'IVG en cas de viol est autorisé chaque année. Et le procureur qui se prononce peut prendre, quand il le veut, la décision administrative qui permet l'IVG. C'est-à-dire qu'il peut prolonger sa décision jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour faire une IVG. Et dans cet amendement, on a juste voulu indiquer au procureur une date butoir pour attester d'un viol pour les Ukrainiennes.
Un amendement une première fois rejeté, mais grâce aux associations, la majorité des femmes les ayant sollicitées ont pu avorter en commandant des pilules abortives en ligne. Quelques-unes sont également parties dans d'autres pays avorter dans des cliniques à l'étranger lorsque la grossesse était trop avancée. Justyna Vejinska.
Pour les femmes ukrainiennes concernant les pilules abortives, c'est bien plus facile car elles savent déjà ce que c'est. Donc la question qu'elles nous posent au téléphone, c'est « Pouvez-vous me dire où m'en procurer ?» Donc ce sont des appels vraiment très courts. La seule différence entre les Polonaises et les Ukrainiennes, c'est que les Ukrainiennes nous demandent des contacts de médecins qui peuvent les aider, car en Ukraine, il y en a. Mais ici en Pologne, aucun médecin ne soutient les femmes, car ils ont peur d'être poursuivis en justice. Donc pour les Ukrainiennes, c'est assez surprenant de ne pas pouvoir parler ouvertement de l'avortement au sein du système de santé.
La militante raconte que c'est parfois les Polonais hébergeant ces Ukrainiennes qui les appellent pour leur demander des informations. Justyna Wyczynska les met en garde car si en Pologne, les femmes ont le droit d'avorter grâce à des pilules jusqu'à la 12e semaine de grossesse, toute personne les aidant encourt jusqu'à 3 ans de prison. La militante sait de quoi elle parle, elle est elle-même poursuivie en justice pour ce motif, une première en Europe selon Amnesty International. Un procès qui témoigne de la pression exercée sur les militantes pro-choix en Pologne et du caractère sensible de la question de l'avortement. Une influente organisation ultra-conservatrice, Ordo Iuris, a d'ailleurs contacté tous les hôpitaux publics de Pologne pour vérifier si des réfugiées ukrainiennes avaient eu accès à l'avortement et si l'hôpital avait bien vérifié que ces femmes avaient réellement été violées.
Le parquet suédois à l'œuvre pour juger les crimes de guerre commis en Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Il a ouvert une enquête préliminaire pour rassembler des preuves de ces crimes. Les procureurs espèrent collecter les témoignages de victimes et de témoins d'exactions parmi les 36 000 Ukrainiens qui ont fui la guerre pour venir se réfugier dans le royaume. Une procédure déclenchée dans le cadre de la compétence universelle de la Suède. Les précisions d'Anne-Françoise Hiver.
L'objectif de cette démarche, rassembler aussi rapidement que possible les preuves de crimes de guerre commis en Ukraine pour pouvoir les utiliser plus tard devant les tribunaux, lors de procédures judiciaires en Suède, dans d'autres pays ou devant la Cour pénale internationale. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le parquet suédois ouvre une telle enquête. Deux autres sont actuellement en cours. La première se concentre sur les crimes de guerre commis en Syrie, notamment par le régime de Bachar al-Assad. L'autre porte sur les crimes commis par l'État islamique en Syrie et en Irak. Ces enquêtes et d'autres, la Suède peut les instruire en vertu de sa compétence universelle, un principe qui découle du statut de Rome, le traité international qui a créé la Cour pénale internationale en 1998 et qui intime aux États l'ayant ratifié de poursuivre les criminels de guerre se trouvant sur leur territoire, peu importe que leurs actions aient été commises à l'étranger. Parmi les crimes concernés, le génocide, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Ces dernières années, les enquêtes menées en Suède ont débouché sur plusieurs condamnations contre des Rwandais impliqués dans le génocide de 1994, mais aussi des Bosniaques, des Serbes, des Irakiens et des Syriens. À Stockholm, début mai, s'est clos le procès d'Amin Nouri, un des responsables présumés des massacres de prisonniers iraniens en 1988. Il avait été arrêté en Suède en 2019, alors qu'il venait d'atterrir à Stockholm pour des vacances.
À la campagne, il y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, il y a des lieux pleins d'histoire.
Les conflits entre ruraux et néo-ruraux se multiplient à lire la presse française. Mais il ne s'agit pas toujours de citadins incommodés par le chant du coq. Il y a les zones périurbaines qui s'étendent d'un côté, les exploitations agricoles de plus en plus grandes, source parfois de nuisances. Ces conflits sont souvent vécus comme le signe d'une ruralité menacée. Comme en témoigne cette affaire, un éleveur laitier du nord de la France a été condamné en mars dernier à verser 120 000 euros de dommages et intérêts à des riverains qui se plaignaient de l'odeur et du bruit de ses vaches. Le monde rural craint que cette décision ne fasse jurisprudence, Lise Verbeck.
La ferme de Vincent Verchure s'étend sur 1 hectare et se trouve au cœur de Saint-Aubin-en-Bray, un village de 1200 habitants. L'éleveur de 33 ans a 260 bovins.
Donc on arrive sur les lieux du crime. Ce fameux bâtiment qu'on a construit en 2010, donc qui accueille d'un côté les vaches laitières et puis la salle de traite. Puis de l'autre côté, les animaux d'élevage.
Et c'est ce hangar, situé juste à côté de sa ferme, installé là depuis 4 générations, qui est l'objet d'une bataille judiciaire depuis plus de 10 ans avec un groupe de riverains. Pour le construire, l'agriculteur a obtenu une dérogation préfectorale car le bâtiment se trouve à moins de 100 mètres des habitations. Les riverains se sont plaints de l'odeur et du bruit des vaches et ils ont obtenu gain de cause. Les juges ont reconnu des troubles anormaux du voisinage et ont donc condamné Vincent Verchure à leur verser 120 000 euros de dommages et intérêts. Une somme impossible à payer pour lui.
Ah bah concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on se met en cessation de paiement puisqu'on n'est pas en mesure de faire ce genre de choses, ou alors il faut vendre une partie de l'outil de production qui revient à... Enfin, si vous vendez vos animaux, vous ne produisez plus, donc dans tous les cas, ça met l'exploitation en péril.
Le tribunal a aussi ordonné qu'il trouve des solutions techniques pour atténuer le trouble en isolant phoniquement le hangar. Il y en aurait pour 100 000 euros de travaux.
Ça n'a jamais été fait en France sur un bâtiment à bovins. On sait couramment faire sur un bâtiment à cochon, à poulailler, mais on ne traite pas du tout les mêmes volumes d'air puisque une poule n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une vache, même s'ils sont plus nombreuses. Donc en effet, c'est des gens qui c'est une première, ils sont plus habitués à faire ça sur des bâtiments industriels.
L'éleveur envisage donc de se pourvoir en cassation, l'ultime recours judiciaire.
C'est long, c'est usant, c'est fatigant et forcément il y a aussi des jours où on en a marre, qu'on a envie de lâcher prise, mais au-delà de ça, c'est quand on est attaché à notre exploitation, ça fait 4 générations qu'on est dessus, nos enfants ils grandissent chaque jour, ils rentrent de l'école, ils en mettent les bottes et ils sont à la ferme. Quoi. Ça fait partie, entre guillemets, de notre ADN.
Moi vous savez, on s'était vu ici le 30 décembre. Quand je m'étais adressé à vous, je vous avais dit que on parlait avec ses tripes, mais on avait une grosse boule dans le ventre. Et aujourd'hui, cette boule dans le ventre, on l'a encore. Pourquoi ? Parce que on a toujours, bien entendu, Vincent, ses parents à défendre, à soutenir. Mais ce n'est pas que. Aujourd'hui, c'est tout le monde agricole qui est concerné.
Cette décision de justice inquiète au-delà du village. Les agriculteurs craignent qu'elle ne fasse jurisprudence et qu'elle incite les riverains à engager des démarches judiciaires quand ils estiment qu'il y a trop de bruit ou trop d'odeur venant d'une exploitation agricole. Alors ce jour-là, beaucoup sont venus apporter leur soutien à Vincent Verchure dans sa ferme, comme Luc De Zutter, éleveur à 13 km de là.
Personnellement, nous, les investissements, on a réussi à les faire parce que la situation s'y prêtait en dehors du village. On s'est décalé d'une centaine de mètres. Bon, maintenant, les craintes qu'on a, c'est déjà que est-ce que si demain une construction se faisait plus près, est-ce qu'elle serait autorisée ou pas ? On n'est pas sûr que non, ce qui poserait toujours problème. Et puis, c'est un peu le mettre le doigt dans l'engrenage, parce qu'aujourd'hui, c'est ça, mais demain, est-ce qu'on aura encore le droit de sortir les tracteurs aux heures qu'on veut ? Est-ce qu'on aura encore le droit de faire...
Le travail
le dimanche ? Le dimanche, le samedi, parce que, il y a les arrêtés tondeuses avec des horaires de travail. Si demain, on nous oblige à faire du bruit que dans ces horaires-là, on ne pourra plus travailler. Quoi.
Dans le département de l'Oise, 40% des fermes se trouvent à moins de 100 mètres des habitations, la limite légale. C'est autant d'agriculteurs qui pourraient donc être concernés par des conflits avec le voisinage. Dans le cas de la ferme Verchure, l'avocat des riverains a dénoncé lors de l'audience, selon ses mots, un élevage industriel menaçant la salubrité publique. Des riverains qui refusent d'être caricaturés en citadins découvrant la campagne. Mais c'est pourtant les néo-ruraux, en général, que cible la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Christiane Lambert est également venue soutenir l'éleveur.
On ne peut pas comme ça venir habiter à la campagne et dire « Eh bien moi je décide qu'il y a trop de bruit, donc je veux que tout s'arrête à côté de moi ». Non, la vie à la campagne c'est aussi de l'activité, c'est des tracteurs qui passent, c'est des oiseaux qui chantent, c'est les bruits de la nature, c'est la campagne. Ce qui n'est pas normal, c'est que ce trouble anormal du voisinage n'est pas défini. C'est combien de décibels, c'est quel degré d'odeur, enfin... Il y a un moment aussi, on ne peut pas tout cadrer, légiférer. Nous sommes le seul pays d'Europe où une loi a été votée pour définir le patrimoine sensoriel et protéger la campagne, parler du chant du coq, etc. Ça a un côté ridicule, mais ça révèle surtout la rigidité aussi, la non-tolérance.
Chant du coq, odeur du fumier, les députés sont partis du constat que les litiges portant sur des troubles du voisinage à la campagne sont de plus en plus nombreux. La loi sur le patrimoine sensoriel des campagnes françaises a donc été votée en janvier 2021. Elle introduit les sons et les odeurs de la campagne comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. Cette loi pourrait protéger les agriculteurs, mais elle n'est pas encore en application, car il faut que chaque direction régionale de l'agriculture et de la forêt définisse ce patrimoine sensoriel dans chaque territoire, et cela n'a pas encore été fait.
If I may offer two pieces of advice, never turn your back on true love.
And the second?
Watch out for your family.
They mean well.
Le Royaume-Uni se prépare pour le jubilé d'Elisabeth II. Exposition florale, inauguration d'une ligne de métro en attendant les festivités pour les 70 ans de règne de la monarque. Mais la question, c'est la régence a-t-elle commencé au Royaume-Uni? C'est la question qui se pose ouvertement, outre-Manche, depuis que le prince Charles a prononcé le discours du trône à la place d'Elisabeth. Fils mal aimé, longtemps impopulaire dans son pays, l'éternel prince héritier de la couronne britannique assume de plus en plus de responsabilités en lieu et place de sa mère, mais finira-t-il par monter sur le trône? Réponse avec Daniel Valot.
My lords and members of the House of Commons.
Il aura attendu d'avoir 73 ans pour remplir pour la première fois cette fonction hautement symbolique. Sur un ton neutre, sans trahir la moindre émotion, le prince Charles prononce le discours du trône, le discours annuel écrit par le gouvernement britannique et lu par le souverain. À sa droite, l'emplacement habituellement réservé au trône est laissé vide. Âgé de 96 ans, fragilisé par des problèmes de santé, Elisabeth II a été contrainte de céder sa place.
C'est un tournant, c'est le signe que la reine vieillit et ne peut plus tout faire.
Le journaliste Michel Faure, auteur d'une biographie du prince Charles.
Charles est là pour la remplacer. Mais comment dirais-je, tout ça s'est passé dans une espèce de continuité progressive et qui n'a jamais été traitée comme une régence.
Officiellement, en effet, pas question de parler de régence qui n'est prévue que dans le cas où la souveraine souffrirait de maladie mentale. L'abdication n'est pas non plus envisagée. Elle est devenue taboue depuis celle d'Édouard VIII en 1936. À ces raisons, vient s'ajouter peut-être une relation parfois difficile entre la reine et son fils aîné. Fils mal aimé, le prince Charles a longtemps été impopulaire également auprès des Britanniques, à tel point que certains imaginaient que la couronne puisse passer directement d'Elisabeth à son petit-fils William. Au cours des 5 dernières années, cependant, la cote de popularité du prince de Galles est remontée, en raison d'abord de son intérêt très précoce pour un sujet qui préoccupe aujourd'hui un grand nombre de Britanniques, la protection de l'environnement. C'est ce que nous explique le journaliste Michel Faure.
Il a été effectivement pionnier sur un certain nombre de sujets, sur même des sujets qui sont maintenant effectivement très populaires, comme par exemple l'attention donnée au changement climatique, l'attention donnée à une nourriture saine et sans trop d'entrants chimiques, etc. Donc c'est un homme qui aurait eu, comment dirais-je, la vertu de passer à travers des moments très difficiles, notamment avec la fin de sa relation avec Diana, mais qui a remonté la pente petit à petit avec une constance tout à fait remarquable et en conservant au fond les mêmes idées.
Devenu populaire sur le tard, le prince Charles est prêt à assumer les fonctions de souverain et les Britanniques sont de plus en plus nombreux à souhaiter une transition du vivant de sa mère. Mais Elisabeth II, malgré ses problèmes de santé, ne semble avoir aucunement l'intention de renoncer au trône, contrairement à ses homologues espagnols, belges ou néerlandais qui ont choisi, eux, de céder leur place de leur vivant, ce qui a permis au passage de donner un coup de jeune à l'institution monarchique dans ces trois pays.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.